Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et si nous étions les prochains après le sabotage des gazoducs de la mer Baltique, la France s'inquiète pour ses câbles sous-marins. 90% des données mondiales y transitent. Nos connexions Internet, nos informations bancaires, nos lignes téléphoniques. Au plus haut sommet de l'État, on prend la menace très au sérieux. Louis Dragnel, c'est une information Europe 1 que vous nous révélez ce matin. Emmanuel Macron a demandé à l'inspection, il a demandé l'inspection générale de tous ces réseaux de communication.
Oui, le chef de l'État prend la menace très au sérieux, d'autant que la France, pays le plus connecté du continent, est le principal point d'entrée de l'Union européenne pour les flux de données. Alors, Emmanuel Macron a demandé aux responsables militaires, principalement de la Marine nationale et aux chefs des services de renseignement, une inspection de toutes les infrastructures françaises. On compte une petite trentaine de mégacâbles, également une surveillance renforcée de ces fils qui mesurent des dizaines de milliers de kilomètres. Tout le défi est là car il est impossible de tout protéger. Heureusement, sur chaque câble, on trouve des capteurs ultra sensibles tous les kilomètres qui redynamisent le transit des flux de données, mais surtout capables de signaler toute vulnérabilité ou tout acte de sabotage. Pour que la France soit paralysée, il faudrait au moins que 4 ou 5 mégacâbles soient attaqués au même moment, un risque qui n'est pas pris à la légère. Plusieurs interlocuteurs d'Emmanuel Macron lui ont déjà suggéré une liste d'actions à mettre en place pour que les données les plus importantes continuent de circuler, comme les informations bancaires, les connexions des hôpitaux, des aéroports ou encore les systèmes de surveillance de l'eau potable. Et donc, en cas d'attaque de nos câbles, le chef de l'État pourrait décider par exemple l'arrêt de Netflix ou encore de YouTube, qui consomme une bande passante considérable.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Dans l'actualité également, homophobie, racisme anti-blanc, violence. Au Mureau, dans les Yvelines, un conseiller municipal écœuré démissionne.
Boris Venon n'en peut plus. Les menaces de mort et les phrases du genre « Le blanc quitte ma ville » ont eu raison de son engagement politique. Depuis le début de son mandat d'adjoint au maire, cet élu socialiste assure avoir subi 11 agressions. La preuve, selon lui, du délitement du lien social dans sa ville. Un sentiment partagé par certains habitants qu'a rencontré Nina Droff pour Europe 1.
Dans l'avenue commerçante des Mureaux, de nombreux habitants ont bravé le vent pour venir faire leurs emplettes. Quand on leur parle de la démission de Boris Venon, plusieurs, comme Huguette et Fred, avouent se reconnaître dans les propos de l'adjoint.
Ça a changé, il y a moins de civisme.
C'est pas une passion de venir ici, personne se dit plus tard je voudrais vivre aux Mureaux. Non, c'est bon, on vit là parce qu'il faut travailler.
Alice, 68 ans, habite les Mureaux depuis qu'elle est toute petite. Elle ne se sent plus autant à l'aise dans sa ville qu'auparavant.
Des problèmes d'insécurité, des problèmes de l'arnaque, de trafic, de la délinquance, ça je le vois bien sûr, hein, parce que je comprends pas pourquoi à 10h on voit des petits jeunes dans la rue.
Du côté de la mairie, on entend ces problèmes. Diana Badiop est adjointe aux relations internationales. Elle appelle l'État à se mobiliser sur ces sujets.
On est face à de l'insécurité. Il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, de violence. C'est pas propre aux Mureaux et cela doit nous interroger collectivement. Ça se passe aussi par l'appui des services de l'État. Évidemment, il faut des réponses politiques.
L'adjointe réclame également une enquête sur les agressions subies par son collègue.
Nina Droff.
Le ministre de la Justice sera-t-il jugé pour prise illégale d'intérêt ? Réponse ce matin.
Éric Dupond-Moretti doit se présenter à 9h devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Mis en examen depuis juillet 2021, il saura s'il est ou non renvoyé devant les juges. L'ancien avocat est accusé d'avoir profité de sa position de garde des Sceaux pour régler ses comptes avec des magistrats.
Et puis c'est la rentrée parlementaire ce lundi.
Oui, retour sur le ring pour les députés qui sont prêts à en découdre sur des sujets tendus. L'assurance chômage, le budget ou la très controversée réforme des retraites que le gouvernement veut faire voter avant la fin de l'hiver. L'exécutif qui a déjà agité l'épouvantail du 49-3, de quoi remettre de l'huile sur le feu. Arthur Delaborde, tension maximale et agenda chargé dès cet après-midi avec d'abord un sujet international.
Oui, pas de projet de loi au programme pour le retour des députés au Palais Bourbon, mais une discussion au cours de laquelle la majorité compte pousser le RN et les LFI à se positionner clairement sur Vladimir Poutine et les sanctions contre Moscou. Nous allons les renvoyer dans les cordes en rappelant leurs déclarations passées, assure un cadre de la Macronie. Un peu plus tard dans la journée débutera le débat sur le premier texte présenté par le gouvernement, la réforme de l'assurance chômage, avec une ambiance tendue en perspective puisqu'il s'agit de prolonger les règles controversées adoptées lors du précédent précédent quinquennat. Celle-ci arrive à échéance à la fin du mois. Le gros morceau, ça sera la semaine prochaine avec l'examen des budgets de l'État et de la Sécurité sociale, les fameux PLF et PLFSS qui devraient enflammer les hémicycles tout au long de l'automne. Côté Sénat, c'est aussi la rentrée aujourd'hui avec en première lecture très vite le projet de loi sur les énergies renouvelables, puis un autre sur la sécurité. En tout cas, les parlementaires le savent, dès cette semaine, le rythme sera très élevé. Tous s'attendent à enchaîner les séances de nuit.
Arthur Delaborde.
8h07 sur Europe 1 au Brésil. Maintenant, la vague rouge vire au rose pâle.
Eh oui, la victoire au premier tour de Lula que prédisaient les sondages n'a pas eu lieu. Il y aura bien donc un second tour le 30 octobre. Jair Bolsonaro, le président sortant d'ultra-droite, qui était donné grand perdant, talonne finalement son opposant de gauche. 5 points seulement les séparent. Une surprise, comme l'expliquait le politologue Frédéric Louau, spécialiste de l'Amérique latine sur Europe 1 ce matin.
C'est la surprise, c'est sur ce bon score de Jair Bolsonaro par rapport à ce qui était attendu. Et surtout qu'il a gagné 1,7 million de voix par rapport au premier tour de 2018. Donc Bolsonaro s'enracine dans le paysage politique brésilien, alors même que les sondages prédisaient une victoire de Lula, l'ancien président, dès le premier tour. D'autant plus que son camp a remporté d'autres élections très importantes, hein, notamment au Sénat et pour les postes de gouverneur. Et donc il va pouvoir s'appuyer sur cette dynamique pour relancer une nouvelle campagne. Et la campagne pour le second tour va être très longue, hein, puisque le second tour n'aura lieu que le 30 octobre, donc après un mois de campagne électorale. Et donc Jair Bolsonaro va bien sûr tout tenter pour renverser les rapports de force et pour essayer de finalement remporter cette réélection qui paraissait si loin encore il y a quelques jours pour lui.
Frédéric Louau, politologue spécialiste de l'Amérique latine, invité d'Europe Matin. Rendez-vous donc le 30 octobre pour les résultats définitifs.
Et ouais, effectivement, c'était notre invité à 7h12, Frédéric Louau, ce matin. Entretien à retrouver en intégralité sur europe1.fr ou dans votre appli. C'était absolument passionnant. Il est auteur d'un livre que je vous recommande chaudement, Le Brésil en 100 questions, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent absolument rien au Brésil.
Voilà. Le Brésil pour les nuls.
Je confesse. Merci Fanny Marceau. 8h...